Le livre infernal, la suite, 7e épisode, la punk et le professeur. Le samedi après-midi, la gare du Nord était plutôt calme. Un homme mûr, l'air soucieux, faisant les 100 pas, semblait guetter, attendre. Il portait une chemise noire à boutons blancs, un pantalon de toile et un sac à dos. « Bonjour, je suis Lorelai !» annonça une voix pétillante. Nico sursauta, se retourna et se retrouva ébahi face à un sourire aussi flamboyant que la chevelure en nid d'oiseau aux mèches blondes dont les pointes dégradées en bleu fluorescent couronnaient le visage éclairé de deux yeux bleu cobalt. Un tricot noir en coton fin à bretelles laissait voir des épaules et des bras musclés. Le jean bleu marine orné de clous servait de support à une banane, sorte de petite sacoche suspendue à une ceinture réglable où l'on pouvait ranger quantité de petites choses personnelles. Des chaussures plates en cuir reliaient le relais à la terre. Tout en elle respirait une liberté de mouvement illimitée et un esprit de joyeuse provocation. Sans respirer, Nico balbutia un « Bonjour, madame. Vous êtes Nico, n'est-ce pas ?» Et sans lui laisser de temps de répondre, elle lui asséna deux bis sonores. Il se sentait stupide, les deux mains accrochées à son sac à dos, mais heureusement, Lorelai lui laissa le temps de reprendre son souffle. Elle faisait signe à quelqu'un. « Voilà le professeur Trognon, on va pouvoir monter dans le train. » En effet, Pépin, juché sur ses inévitables rollers, s'approchait sans effort. Ils se saluèrent, montèrent dans un train régional à destination de la Picardie. Quand ils arrivèrent à la librairie, ils avaient fait plus ample connaissance. Armel était déjà arrivé et avait déjà sympathisé avec Fabiche. Pépin fit les présentations et tout le monde passa dans l'arrière-boutique où la commerçante avait préparé un buffet précédé d'un apéritif. Pépin fut surpris. Il n'avait pas songé à un repas. Il n'en dit rien, mais loua intérieurement l'esprit pratique de Fabiche. Les conversations étaient animées. Cornelius et Obélix tirèrent leur épingle du jeu. Le premier déroba discrètement une magnifique tranche de saumon fumé. Le second fit honneur au rôti de porc dont Lorelai fit tomber une tranche. Le chien la chopa au vol, elle rit silencieusement et attrapa alors un énorme blanc de poulet et le lança discrètement. Celui-ci ne toucha pas le sol non plus. Le buffet se finissait doucement quand Nico fit un signe à Pépin qui opina d'un air entendu. Nico sortit de son sac une sorte de tissu noir, brillant, qu'il posa sur la table. Lorelai s'en empara, Armel et Fabiche s'approchèrent.
« Qu'est-ce que c'est ?»«
Oh, c'est rigolo, on dirait qu'on touche de l'eau. »«
Cela doit être rafraîchissant, des vêtements coupés là-dedans. »«
Attendez un peu. »
fit Nico, l'air mystérieux. Il prit le tissu, le déplia complètement, accrocha de petites ventouses de plastique transparent et se mit à le plaquer comme une affiche sur les vitres d'une des bibliothèques. Au coin inférieur droit, il mit une pince crocodile reliée par un câble fin à un petit boîtier. Il y ficha une clé USB qui servait de mémoire et lança finement
« Ça vous dirait une petite séance de cinéma ?»«
Chic, quel film ?»«
Fahrenheit 451 ?»
fit Pépin triomphant. « Waouh, c'est high-tech !» s'exclama Lorelai en direction de Fabiche qui approuva d'un sourire. Nico prit son téléphone mobile, activa la connexion Bluetooth et sélectionna le film. Armel sursauta.
« Ah, c'est cool, un téléphone comme télécommande. Remarque, moi, j'ai pas besoin du téléphone pour faire venir Obélix. »
Elles rirent toutes les trois. N'empêche, une robe dans cette matière, ça serait génial. On pourrait changer la couleur, les motifs, hein ? Chaque profil en fonction de chacun de mes amants.
Et quand tu en cherches un, tu mets quoi ?
Un point d'interrogation.
Nouvelle explosion de fou rire, elle riait aux larmes. Dès qu'elle se calmait, l'une d'elles en remettait une couche. Pépin et Nicou se regardaient, consternés. Finalement, Pépin reprit le dessus et conclut sévèrement
« Pour l'instant, l'usage est réservé pour des fonctions culturelles. »
Les femmes se calmèrent, pouffant encore, et allèrent s'installer sur un canapé à l'autre bout de la pièce. Fabiche avait réglé le lustre en veilleuse. Nico relança le film au début. Pendant la diffusion, Cornelius squatta les cuisses d'Armel, se laissant gratouiller avec délice par sa logeuse, tandis qu'Obélix mendiait des câlins alternativement à Lorelai et à Fabiche. Les deux hommes leur jetèrent un coup d'œil à la dérobée et pensèrent « c'est vraiment de drôles de dames ». Quand le film toucha à sa fin, elles se mirent à papoter.
Alors, ça vous inspire quoi ?
Bah, c'est pas mal.
Le bouquin doit être mieux.
Mais il n'est pas dans le domaine public.
Donc on ne peut pas le lire et le diffuser comme livre audio.
Déduit Nico.
Exactement. Et c'est bien dommage, n'est-ce pas ?
Oh oui, oh, oui.
Eh bien, s'il n'y est pas, il suffit de le faire tomber.
Comment cela ? Il n'est même pas mort.
Ben, justement.
Hein ? Tu veux l'assassiner ?
Ça y est, il est fou.
Mais non, je veux juste le transférer dans le passé.
Quoi ? Mais c'est impossible !
Non seulement c'est possible, mais on va le faire.
Très intéressant. Madame l'abeille s'était mise en colère et, aidée d'Armel, elle avait attrapé le professeur Trognon et l'avait jeté dans la rue comme on aurait fait d'un ivrogne qu'on éjecte d'un café. Nico était peiné de la tournure des événements et avait rejoint le malheureux expulsé. Lorelai salua ses deux nouvelles amies en les rassurant qu'il restait un dernier train pour ramener ses « gamins ». Elle trouvait la chose plaisante, ce qui détendit les deux videuses.
Armel et Fabiche étaient déçues. Elles étaient d'accord. Quel dommage. Il était si mignon, ce petit professeur, avec sa petite moustache et sa barbichette. Il faisait penser à D'Artagnan, si ce n'était les lunettes rondes. Voyant Cornelius affalé sur le canapé, Armel interrogea sa nouvelle amie sur l'origine du nom du chat. Madame l'abeille sourit. « Oh oui, c'est un peu bizarre. Un jour, j'ai trouvé devant la porte du magasin, au pied des marches, un carton. J'ai ouvert sans peine, les rabats n'étaient pas attachés. Dedans, il y avait du papier journal froissé et un petit chaton, tout effaré. Il avait l'air d'une peluche, mais dessous, il y avait des livres en collection de poche. Que des livres de Gustave le Rouge. Et le premier que je pris fut le mystérieux docteur Cornelius. Voilà toute l'histoire. Ça fait un télo pour un chat, non ?
Ça lui va bien.
Et toi, pour Obélix ?
Parce qu'il adore les menhirs. Il ne les manque jamais pour marquer son territoire.
Après un dernier fou rire, Armel prit congé sans dévoiler son moyen de transport. Elle noya le poisson, ce qui était bien normal pour une Bretonne. Goodbye, farewell, goodbye, farewell. Hardi les gars, adieu Bordeaux, hurra au Mexico. Au Cap-Horn, il ne fera pas chaud. Holloway, hey, oh la chalet, à faire la pêche au cachalot. Almatelo et Oriceo. Oh,
Dans le train de retour, Pépin Trognon expliqua son plan. Nico était dubitatif, Lorelai sourit. Écoutez, je veux bien essayer, c'est risqué, mais bon, seulement je veux savoir si tu es sûr que le produit va marcher.
Oui, tu verras, il disparaîtra. C'est juste une disparition.
Quand même, un écrivain, ça disparaît pas comme cela, ronchonnait Nico.
Tu verras, je te dis que cela marchera. Les calculs ont été vérifiés par les plus gros ordinateurs.
Arrivé à Paris, dans la gare du Nord, Pépin embrassa Lorelai, qui sentit qu'il lui glissait quelque chose dans la main. Pendant que Pépin serrait la main de Nico en se donnant rendez-vous pour la semaine suivante sur l'Internet, elle glissa le minuscule objet dans sa banane, dit au revoir à Nico, et s'en fut, légère, comme si de rien n'était. Elle descendit par l'escalier mécanique, remarqua un groupe de jeunes qui discutaient bruyamment. « Je t'assure, Rachid, c'est trop génial !» s'excitait l'un. « C'est des mecs et des meufs qui lisent tout haut !»« Arrête tes conneries !»« Mais si, écoute sur mon MP3, il y a un truc de Corneille !»« Le chanteur, il écrit des livres !» se récria Rachid. « Tu dis n'importe quoi, c'est un gros nul !» Mais non, celui qui a fait du théâtre, qu'on voit au bahut. Ah ouais, le mec qui se battait contre les Arabes. Voilà, t'as compris. Mais là, c'est juste un morceau. Ils se turent à la vue de la punk qui passait devant eux. Lorelai les fixa, leur décocha un sourire à béatifier un diable et disparut dans les couloirs du métro. Ils restèrent pantois.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux.
Resté seul, Nico prit à regret le chemin qui le menait chez lui, d'un pas lent, tristounet. Il se sentait déjà nostalgique de cette rencontre éphémère. Il avait flashé sur Lorelai.
Je vais seul par les rues, l'âme en peine, oui mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime.
Pourtant d'habitude, il ne se sentait guère attiré par ce genre de femmes provocantes. Il préférait souvent les discrètes, les timides. Mais en faisant plus ample connaissance dans le train, il avait cru remarquer un esprit vif et surtout une sensibilité raffinée. Il lui devenait évident que cette attitude excentrique servait à cacher un caractère ferme et doux à la fois. Et puis, elle était rudement cultivée, la miss. « J'espère que je la reverrai, » pensa-t-il, « et qu'elle n'aura pas de problème dans cette drôle d'histoire. » Il repensa à ce que le professeur Trognon lui avait demandé. Inviter l'écrivain Ray Bradbury en France à l'occasion d'un festival du livre. Il fallait le décider à venir en le déclarant président d'honneur d'une cérémonie d'un prix du meilleur roman fantastique. Et aussi, se dit Nico, un gros chèque pour la venue. Les Américains ne se dérangent pas pour rien. Le bénévolat chez eux, c'est au minimum tout frais payé.
Truffaut aura été un homme cinéma, comme il a existé dans son film Fahrenheit 451, adapté du roman de Ray Bradbury, Des hommes livres. Truffaut était un homme film.
Épisode 8, Tête de mort.
Surprise, elle s'était retrouvée plaquée au sol. Elle avait le souffle coupé par la violence de la chute et le poids de son agresseur. La pensée qui la traversa était saugrenue. C'est généralement ainsi dans les situations de danger. Pourvu que les bleus ne se voient pas.
Avant même de réfléchir à quoi faire et parallèlement à cette considération esthétique, son cerveau avait déjà mis en jeu les réflexes de défense durement acquis pendant des années d'entraînement et de préparation physique. L'homme qui s'était jeté sur elle cherchait à l'empêcher de se ramasser, de se regrouper sur elle-même. Elle luttait désespérément, refusa de se laisser prendre les mains et les bras, mais dans le même temps, sa jambe gauche était déjà prisonnière des deux jambes entrecroisées de son adversaire. Il cherchait à l'enlacer comme un python. Il était corpulent et lourd, mais incroyablement souple et vif comme un tigre. Sa force était phénoménale. Il l'appuyait dans le sol, où il prenait ses appuis avec les pieds, avec ses coudes, ses hanches. Il cherchait des leviers. Alors qu'elle levait les mains pour parer un mouvement d'attaque du bras gauche de son ennemi, ce dernier glissa prestement sa main droite sous son cou pour agripper au creux de l'aisselle droite de la femme. Elle comprit brutalement sa stratégie. Il voulait la soulever du tapis pour la réduire à sa merci, tel Héraclès soulevant le géant hanté qui reprenait des forces dès qu'il touchait le sol. Paniquée, elle cherchait à revenir à plat ventre, mais il était déjà maître de son corps. D'une rotation lente et harmonieuse, il la retourna presque avec douceur, comme une fleur que l'on va offrir avec délicatesse. Ceinturée, elle sentait les muscles qui la serraient de plus en plus. Impuissante, elle arrêta de résister, vaincue et folle de rage impuissante.
Bravo Farid, bien joué, fit une voix gouailleuse qui sentait le bassin parisien. T'es jamais aussi fort que contre les meufs, lança une voix africaine. Bande de fauchetons, râla l'or essoufflé en se relevant péniblement. Oh là là, je vais être dans un drôle d'état pour aller bosser demain. Ah ah, ça t'apprendra. Faut toujours te méfier de tes amis, parce que les ennemis, on peut leur faire confiance. Ils ne te feront jamais de cadeaux. D'ailleurs, il n'y a que les amis qui trahissent par définition, expliqua Farid en l'aidant à se relever. Ouais, je sais, je sais. Tu me vénères des fois, lâcha l'or qui n'avait pourtant pas pour habitude d'utiliser le verlan. Les trois garçons éclatèrent de rire bruyamment, ce qui ne sembla pas gêner les autres habitués du dojo. Sauf le vieux maître des lieux, au visage zébré de rides droites et dures. Son expression restait impassible, et seul son regard profond et sombre manifestait sa désapprobation. Farid eut un petit sourire de gamin pris en faute, et s'excusa doucement. « Vous inquiétez pas, on s'en va. » Ils saluèrent respectueusement, le maître avait incliné la tête. Sans un mot. Quand ils furent dehors, ils allèrent dans une brasserie. Farid présenta ses amis à sa partenaire. Frédéric était un ancien légionnaire qui promenait en claudiquant sa carcasse d'1,80 m. Il avait été blessé lors d'une opération militaire menée sur Colvézi en 1978, qui avait permis la libération de la ville, qui avait été prise en otage par les rebelles katangais. Des balles avaient fracassé ses deux genoux et l'avaient rendu invalide. Il était anglais par son père et manouche par sa mère. D'ailleurs, il n'avait plus qu'elle comme famille. Il lui avait retapé son petit pavillon de colombe. Grâce à Farid, il avait appris à télécharger des livres audio et à les graver sur des disques compacts pour qu'elle puisse écouter les vieux livres. En effet, dans la jeunesse de la vieille dame, les gens du voyage n'envoyaient pas leurs enfants à l'école. Quant à Mokhtar, il était ivoirien et venait souvent en France car il y avait fait ses études de kinésithérapeute dans une école de la région parisienne. À l'occasion d'un stage, il avait fait la connaissance de Farid qui travaillait dans une maison de retraite à cette époque. Les deux hommes avaient sympathisé car ils partageaient la même passion pour les arts martiaux. En effet, Mokhtar était un ancien champion du monde de taekwondo et occupait le poste d'entraîneur national en Côte d'Ivoire. Lorsqu'ils se séparèrent, Farid raccompagna Laure et malgré son insistance, elle repoussa ses avances avec une fermeté souriante, comme toujours. Elle adorait son partenaire d'entraînement au dojo et tenait à préserver leur amitié. Elle craignait qu'une relation amoureuse entre eux ne détruise cette affection fraternelle, durable et solide. Elle avait confiance en lui et savait qu'il n'irait jamais au-delà de sa volonté. Sans être analphabète, Farid n'était pas un lettré, mais il possédait un bon sens bien supérieur à la moyenne des hommes et même des intellos. Très observateur, il montrait beaucoup de sensibilité vis-à-vis de tout ce qui l'entourait. Elle le trouvait vigilant et attentif, c'est-à-dire vivant et attentionné. Même en combat, il restait humble dans ses capacités et ses opinions n'étaient jamais tranchées. Laure n'avait jamais dit son vrai nom à cet ami. Tout juste, s'il savait qu'elle était hôtesse de l'air, Lorelai n'existait pas pour Farid. C'était une manière de garder un havre de paix. Elle pouvait se ressourcer auprès de lui. En pratiquant les arts martiaux par nécessité, elle avait trouvé un ami et un univers où la vie était différente du monde habituel, un exotisme oriental mélangé de mystère pour les profanes. On y voyait du secret, là où il n'y avait que de la discrétion. Le dojo était une enclave où chacun, laissant son rang social, sa misère ou sa fortune, son nom, sa nationalité ou sa religion, tout signe distinctif disparaissait sous l'apparence des rituels et des tenues de combat. Même le silence était recommandé. Les cadres dynamiques ne pouvaient ainsi se distinguer des têtes de mort. Farid essayait tout. Aïkido, kendo, tai chi chuan, taekwondo, karaté, judo et même de la boxe anglaise, car dans le dojo, les esprits n'étaient point fermés. Ce n'était pas non plus la rivalité entre les membres, mais plutôt un partenariat fait d'expériences et d'essais. Tout était centré sur l'apprentissage technique. Le fait même d'apprendre devait toujours rappeler à l'élève que l'humilité reste essentielle en toute chose. Et les meilleurs du dojo montraient l'exemple. C'est pourquoi il régnait une ambiance respectueuse et studieuse, tant vis-à-vis du plus fort que vis-à-vis du plus faible. Chacun était conscient, les forces pouvaient s'inverser à tout moment de la vie.
Que la force soit avec toi, à jamais.
Une seule fois, Laure avait accepté de venir chez Farid. En tout bien, tout honneur, lui avait-elle précisé.
C'est cela, oui.
Il lui fallut expliquer l'expression devant l'incompréhension de son ami.
Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Celui-ci eut alors un mince sourire, mi figue, mi raisin, qui la fit rire aux éclats. Elle avait posé sa main tendrement sur le bras et lui souffla. Tu sais bien, les amis sont plus sûrs que les amants.
C'est cela, oui.
Il ne faut pas m'en vouloir. Je tiens à toi. Il apprécia la consolation, mais son sourire resta triste. Ce soir-là, ils mangèrent ensemble. Elle découvrit le passé du petit loubard de Farid, mauvais élève, petit larcin, la débrouille, les cuisinières en fonte récupérées à la décharge avec un copain, pissant dessus pour l'astiquer avant de la vendre, les petits travaux au black. À force de travail, il avait réussi à acheter un vieil appartement, l'avait retapé, puis loué. Puis un autre, refait à neuf et revendu, l'air de rien, le bonhomme cachait sous son apparence à la chérie Bibi un être courageux et réfléchi. Comme il disait parfois avec humour, « Chez nous, on n'a pas d'instruction, mais on sait compter. » Elle avait visité l'appartement, meublé avec goût, entretenu et moderne. La chambre à coucher l'étonna. Elle était nippone, avec des estampes, un paravent et un sabre au mur que Farid décrocha pour lui montrer. C'était un authentique katana, le sabre des samouraïs. Elle prit l'arme, elle dut mettre les deux mains et s'exclama « Mais c'est lourd cette connerie !»« Ouais, hein ?» fit Farid. « Cela a dû coûter cher ce truc-là !» Il lui sourit. « Peu importe, on ne compte pas quand on aime. »« C'est un cadeau ?»« Non, hélas, j'aurais aimé recevoir ce katana des mains d'un vrai samouraï. » Elle sourit. Bien sûr, c'était l'évidence même. Il remit l'arme dans son fourreau de bois et la raccrocha au mur par sa bande de soie rouge et noire. Quand il se retourna, il aperçut dans les yeux dorés de l'or une lueur fugitive. Il crut avoir rêvé, mais elle baissa les yeux en disant « Il faut que je rentre. » Comme d'habitude, il l'avait déposée à la station de métro, comme aujourd'hui. Il pensait souvent à cet instant fugitif où elle avait failli, mais elle s'était reprise en main immédiatement. Elle était trop forte pour lui. Il le sentait confusément. Elle était insaisissable, et pourtant, elle semblait si ordinaire, si commune. Des filles comme elle, cela courait les rues, pensait-il. Des brunes aux une noisette, y a rien de spécial. Alors quoi? Pour Farid, les rapports avec l'or étaient trop compliqués. Il lui semblait la comprendre, la deviner. Dès qu'ils étaient trop proches, non pas physiquement, mais émotionnellement, elle devenait fuyante. Elle semblait lire dans ses pensées. Ils étaient arrivés devant la station Boulogne-Jean Jaurès. Elle lui décrocha un sourire radieux pour le réconforter, lui colla deux bises bien appuyées et attrapa son sac sur le siège arrière. Elle sortit de la voiture en courant et s'engouffra dans l'escalier. Farid l'avait suivi des yeux avec un grand soupir. Il démarra.
Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
À la station Michel-Ange Molitor, Lorelai sortit dans la rue, marcha et finit par retrouver sa petite berline. En montant, elle aperçut un jeune homme qui, bouche bée, la contemplait, sans doute fasciné par le bleu cobalt. Elle lui décocha un sourire et démarra en faisant rugir son moteur.
Épisode 9. Palace Airline.
Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie, j'ai rêvé de voir le bas d'en haut. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir des talons hauts. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir les fesses en l'air.
Trois jours plus tard, à l'appel de Lorelai, Nico se précipita à l'aéroport de Roissy. Il était trop content de la revoir. Elle lui avait donné rendez-vous au comptoir de la Palace Airline en exigeant qu'il soit à l'heure, car elle y passait entre deux vols. Recommandation inutile, Nico avait trop envie de la retrouver. Grâce au GPS, appareil vocal donnant les informations routières par carte satellite, il arriva donc à l'avance. Lorelai lui avait indiqué avec précision où se trouvait le comptoir de la Palace Airline. Il n'eut aucune hésitation et se mit à contempler le décor idyllique de l'agence de voyage. Il put ainsi découvrir tout à loisir les propositions alléchantes de ce tour opérateur dont les affiches détaillaient les services de chaque vol. En effet, il s'agissait de voyages de luxe. Outre les voyages en classe affaires pour les sociétés à très gros budget dans les vols moyens courriers, il y avait surtout de nombreuses possibilités de vols de croisière à destination lointaine sur des avions possédant tout le confort et des prestations dont la qualité était digne des plus grands hôtels. Justement, les escales touristiques n'avaient lieu que dans des hôtels de ce niveau. À côté de l'inévitable tour du monde, à bord d'un Boeing ayant une piscine et un court de tennis, aux dimensions adaptées à la largeur de l'appareil. Le prix indiqué fit pâlir Nico, dont les yeux prirent la même forme que les nombreux zéros qui précédaient le symbole de l'euro. Enfin, en dehors des choix proposés, on pouvait aussi établir un vol sur commande avec les spécificités les plus excentriques. Il vit qu'une hôtesse d'accueil l'observait d'un air amusé. Elle sentait bien qu'il n'allait sûrement pas être un client. Son pull, son jean et ses baskets n'étaient pas le style de la maison. Il s'approcha alors et lui expliqua qu'il attendait Madame Lorraine, qui travaillait pour la compagnie. Elle sourit. Elle ne la connaissait pas, mais accepta l'explication quand il précisa l'heure du rendez-vous. Cela devait tomber juste après l'arrivée d'un vol. Il se recula alors et admira un poster placé sur un côté du comptoir, sans vraiment le voir d'abord. Soudain, il s'y intéressa et oublia ce qui l'entourait. On pouvait réaliser une pré-réservation pour les premiers vols hors atmosphère du Space Shift 2. Nico, qui ne manquait aucune innovation ou découverte technologique, connaissait déjà tous les détails concernant ce tourisme spatial. Il avait suivi le Space Ship 1 et ses tentatives réussies en 2004. Il s'ensuivit alors la décision de Richard Branson, fondateur du groupe Virgin, de commander 6 appareils d'une version améliorée permettant de transporter 6 passagers en plus des 2 pilotes. Il lança également la construction d'un aéroport, le Spaceport America, au cœur du désert du Nouveau-Mexique, enfoui dans le sous-sol avec la plus grande autonomie possible en énergie. Il montrait ainsi son souci de l'écologie. D'ailleurs, le milliardaire anglais avait apporté son soutien à l'action de l'ancien candidat à la Maison-Blanche, le sénateur Al Gore. La gestion et l'organisation du projet avaient été confiées à la Virgin Galactic avec la cerise sur le gâteau, la touche mégalomane, l'iris de Richard Branson servait de logo à la société et le plan du Spaceport devait en épouser tous les détails. Bref, l'œil de l'aventurier milliardaire scrutait l'espace. Avant tout voyage, les candidats spatiotouristes devaient subir une semaine de préparation avec des examens médicaux pour détecter les inaptitudes à un tel voyage.
T-minus 15 seconds, guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour. Liftoff on a...
Ensuite, il fallait s'entraîner à supporter les accélérations qui augmentaient la masse corporelle. Pour sortir de l'atmosphère, elle était de 5 à 6 G, c'est-à-dire 5 à 6 fois le poids du corps. Mais au retour, on parlait de 8 à 9 G, et là, c'était vraiment beaucoup. On ne devait pas rigoler avec la sécurité, pour que les compagnies d'assurance acceptent de couvrir les risques. La Virgin Galactic avait également fait construire 2 gros avions porteurs. Leur mission consistait à emporter le Space Ship 2, appelé SS2, jusqu'à plus de 4000 mètres. L'avion-fusée allumait alors ses réacteurs à comburant hybride pour atteindre la vitesse de Mach 6. Entre 150 à 180 km d'altitude, il basculait en utilisant l'effet volant de badminton, puis déployait ses ailes pour rentrer doucement dans les hautes couches de l'atmosphère et limiter ainsi le réchauffement. Ce dernier phénomène avait posé bien des problèmes à la NASA lors de l'utilisation des navettes spatiales. Le SS2 utilisait largement les matériaux composites à base de fibres de carbone et la technologie des ailes repliables était révolutionnaire.
Je m'en vais dimanche à Orly sur l'aéroport.
Nico en bavait devant l'affiche.
Ça vous dirait un petit tour au septième ciel ?
Fit une voix douce et narquoise. Il sursauta, surpris dans sa rêverie, se retournant d'un seul coup. Il vit une blonde souriante aux yeux verts. De ce vert profond qu'on dit glauque comme celui des eaux d'une mare, qui empêche d'en voir le fond. Ses yeux-là s'harmonisaient avec le tailleur bleu roi de la Palace Airline. La tenue était ornée de boutons et de barrettes argentées. En argent aussi les boucles d'oreilles en forme d'Airbus A380. Le maquillage se devinait à peine.
« Alors Nico, on dit plus bonjour aux copines ?»
lança-t-elle en s'approchant. Nico la devina enfin, mais n'eut pas le temps de bouger. Deux grosses bises sonores s'imprimèrent affectueusement sur ses joues. C'était Lorelai. Il ne l'avait pas reconnue immédiatement. La chenille colorée avait mué en papillon bleu-argent. La loubarde des chemins de fer était méconnaissable en hôtesse de l'air. « Bonjour, » parvint-il à articuler. « Enfin, on pourrait boire un... »«
Je suis vraiment désolée, pas le temps. Il faut que j'aille à l'embarquement pour l'accueil des passagers. Je remplace une copine qui est malade. J'aurais bien voulu, je t'assure. Je suis contente de te voir. » « Tiens, voilà les billets. Tu diras à Pimpin que tout est réglé. Je me suis arrangée avec la responsable de ce vol. C'est un vol spécial pour l'inauguration d'une nouvelle ligne. J'ai pensé que cela attirerait encore mieux notre Lascar. Les Américains sont de grands enfants, tu sais. »«
Ah oui, sûrement. C'est une bonne idée, » dit Nico d'une voix incertaine. Il se sentait un peu ridicule, impressionné. Il aurait pourtant, comme il savait souvent le faire, prendre l'initiative, mais face à Lorelai, il n'y parvenait pas. Elle décidait par rapport à ses possibilités à elle. Elle fixait le rendez-vous, choisissait le type de voyage. Bref, tout était réglé comme du papier à musique. Il n'y pouvait rien. Il avait horreur de ne pas maîtriser la situation et devait se contenter de jouer au facteur. Il eut droit à de nouvelles bises, et à un sourire étincelant qui lui mordit le cœur.
Départ à destination d'Amsterdam, Hambourg et Helsinki. Vol Finnair 854. Embarquement immédiat. Porte numéro 37. Départ à destination de New York et Houston. Vol Air France 007, embarquement immédiat, porte numéro 40.
Pépin fut ravi de l'idée de Lorelai. Il prit le dossier que lui tendait Nico. Il contenait deux billets et un livret de voyage. En effet, il s'agissait du vol inaugural d'une ligne régulière transatlantique que la Palace Airline avait décidé de mettre en place pour prendre un créneau commercial laissé vide depuis la mise au hangar des Concorde. L'avion choisi était un Airbus A380 luxueusement équipé, tant en technologie qu'en mobilier, et baptisé orgueilleusement Atlantic's Flying Palace. La brochure qui accompagnait les billets était superbe. Les photographies colorées suggéraient un faste à la hauteur des prétentions des riches voyageurs.
Si j'étais riche, tous les jours, j'étais guidé, si j'étais riche, moi.
les deux garçons s'extasiaient, se disaient que Bradbury avait bien de la chance. Soudain, ils se regardèrent, un peu effarés. Le prix, il n'était pas affiché, ni sur la brochure, ni sur les billets. Nico assura le professeur que Lorelai lui avait dit que tout était réglé. Mais cela avait dû coûter une fortune. Nico suggéra. Elle a dû avoir des billets de faveur, ou des invitations spéciales. Cela doit sûrement se faire pour ce genre d'opération commerciale. Question de publicité. Pépin opina du chef. Il contemplait les billets plus attentivement. Nico vit le regard fixe de son ami et s'inquiéta. Qu'est-ce qu'il y a ? Les horaires du voyage. Alors c'est vrai ce que Lorelai disait dans le train ? Lâcha le professeur. Ma parole, je suis un âne. L'avion va plus vite en venant à Paris qu'en repartant vers New York. Il va plus vite en allant d'ouest en est.
À la boulette. Ah oui, j'ai fait la boulette.
Ben oui, fit Nico doucement. Elle t'avait dit que les vents aidaient la mécanique. C'est logique, non ? Mais non, c'est pas logique. C'est n'importe quoi, voyons, s'entêtait le professeur. Nico le regarda bizarrement. Le professeur semblait très contrarié. La moustache hérissée comme un balai brosse, le cheveu rebelle, il était devenu tout rouge et respirait avec peine.
Arrête, tu me fais peur !
Il était furieux contre lui-même, se traitant de tous les noms.
Quel crétoun !
Il fallut de longues minutes pour qu'il se calmât. Nico avait fait un café pendant ce temps, et cela remit son camarade sur les rails. Il se disait que cela ne valait vraiment pas le coup de se mettre dans des états pareils. Quand Nico Latenko fut parti, Pépin se mit à tourner en rond autour de sa table de travail. C'est souvent ainsi qu'il réfléchissait quand il faisait appel à sa mémoire. La moquette conservait les impressions, sensations, hésitations, reculades, démarrages, enchaînements, qui cheminaient dans les circonvolutions cérébrales pour retrouver les souvenirs jusqu'au cœur du cerveau primaire, au cœur de l'hippocampe, que les physiologistes ont nommé ainsi en raison de sa ressemblance avec ce petit animal marin. Dans la tête du professeur, cet organe semblait plus vivace que celui des autres individus. Il régurgitait les tranches de mémoire épisodiques à la vitesse de l'éclair. Pépin marchait, arpentait, gesticulait, articulait des bouts de phrases et les entrecroisait avec des groupes d'onomatopées incompréhensibles. C'était des « quelque soit », des « par conséquent », des « donc », des « car », des « mais enfin », des « pourquoi » qui débutaient une phrase inachevée, des « comment » qui n'en finissaient plus. Il y avait aussi des interjections de mots étrangers ou latins, et surtout plein de sons sans signification particulière. On eût dit qu'il parlait une langue étrangère. Si un psychiatre avait été là, il aurait sûrement conclu, un peu rapidement, à une palydalie.
Quoi de neuf, docteur ?
Il s'excitait tout seul, faisant bouillir sa cafetière capitale par un jeu complexe de passions et de sentiments mêlés. Ainsi, la rage, la colère, la tendresse, l'émerveillement, le chagrin ou la joie déclenchaient la libération de sa mémoire, organisée en modules, et les événements remontaient à la surface de son cortex. Ils étaient ensuite analysés, confrontés, comparés, associés, évalués, triés et rassemblés de façon logique. Mais pas avec n'importe quelle logique, avec la sienne, avec sa logique propre, utilisant ses référentiels de valeurs, qu'ils fussent scientifiques ou éthiques, qu'ils fussent sensibles ou sensoriels. Comme tout un chacun, il avait construit son univers rationnel et irrationnel. Les sensations le disputaient à la morale ou à l'éthique. Les peurs et les frustrations généraient des phobies conscientes pour certaines et inconscientes pour la plupart. Tous les phénomènes vécus ainsi avec passion, que ce soit de l'amour ou de la haine, laissaient leurs traces, ce qui permettait d'en retrouver les éléments associés. Sensoriel, sensitif, intellectuel, spirituel. Toutes les rencontres, toutes les actions subies ou déclenchées, toutes les lectures, toutes les études, les moindres faits, du moment que l'attention passionnée les détectait ainsi enregistrées. Pépin se souvenait. Il se rappelait. La Réunion, la rue Chaumeau, Lorelai, Fabiche, Armel, Cornelius, Obélix, la table, Nico et sa visiotoile, son exposé passionné pour envoyer Red Bradbury dans le passé pour faire tomber Fahrenheit 451 dans le domaine public, la table en chaîne. Soudain, il vit le visage d'Armel. Pas contente. Puis Fabiche non plus. Enfin, il comprit. Bien sûr, elle croyait qu'il voulait tuer cet écrivain. En fait, elles étaient de bonne foi. Et lui ? Lui, il n'avait rien compris, trop enthousiasmé par son projet. Il s'était mal expliqué, tout simplement, en ne voulant pas dévoiler comment il allait vraiment procéder. Évidemment, cela devait tenir de la sorcellerie, un tel moyen. Elle ne l'aurait jamais cru.
Épisode 10, coup de fil, coup de bluff.
Quand Armel raccrocha, elle avait le sourire. Il avait fait le premier pas. Allons, il n'était pas si mauvais bougre, ce garçon. Juste un peu toqué. Enfin, un peu plus qu'un peu. C'est quand même bizarre qu'un scientifique soit aussi à côté de ses pompes. Comment faire pour en savoir plus ? Après l'incident de la Réunion, elle avait un peu regretté son emportement, mais elle n'avait pas envie de faire le premier pas. Mais maintenant que Pépin avait appelé, elle se sentait libérée d'un poids. Elle hésitait. Nico ? Lorelai ? Non, pas Nico. Il était trop copain avec Pépin. Il ne le trahirait pas. Alors Lorelai ? Ben oui, bien sûr, entre femmes. On allait pouvoir discuter franchement. En fait, elle fut très étonnée. Lorelai ne lâcha rien, malgré une discussion serrée. Plusieurs fois, elle changea habilement de sujet, mais Armel y revenait subitement. Malgré son caractère impétueux, elle faisait des efforts colossaux de diplomatie. Sa motivation était telle qu'elle parvenait à rester calme. La lutte était courtoise et Lorelai ne céda pas d'un pouce. Face à la menace d'appeler Nico, elle sourit en expliquant à son interlocutrice que le pauvre Nico n'était pas au courant de grand-chose et qu'il ignorait tout du procédé choisi par Pépin. Elle conclut victorieusement en disant qu'elle avait promis de ne rien dire. Elle avait senti qu'Armel finirait par accepter cette explication, car c'était le genre de choses qu'elle pouvait admettre. Armel, trop entière, pouvait accepter le principe de la parole donnée. Elle-même n'aurait jamais admis le parjure. Elle n'en voulait pas à Lorelai, mais elle obtint une contrepartie du même ordre. Elle força Lorelai à lui jurer qu'elle appellerait en cas de danger.
Vous avez demandé la police. Ne quittez pas.
Et exigea qu'un message texte soit prêt à être envoyé en urgence. Bien sûr, c'était inutile, mais cela conjurait le mauvais sort, pas vrai ? Lorelai promit. Armel n'était qu'à moitié rassurée. Il était clair qu'on ne pouvait arrêter l'exécution du plan dont elle ne savait rien d'autre que l'objectif recherché. Mais il y avait un plan. Le comportement de Pépin et de Lorelai le prouvait. Elle Elle alla chez Fabiche par le trajet qui lui était devenu familier, toujours accompagnée de Bélix. Elle avait bien du mal à se fier au temps qu'elle passait dans le trajet. En effet, dans le tunnel, bien que ce ne fût pas l'obscurité absolue, elle ne pouvait lire sa montre. Le plus bizarre restait que, lorsqu'elle regardait sa montre après la sortie du tunnel, elle n'avait jamais le même temps. Or, la durée passée dans le tunnel lui paraissait vraiment courte, alors qu'elle se retrouvait toujours à plus de 500 km de chez elle. Armelle avait essayé de trouver des explications, sans succès. C'était incompréhensible, d'autant qu'elle était toujours en train de chercher une explication valable pour le moment où on lui demanderait comment elle voyageait. Elle n'arrivait pas à inventer un moyen de transport cohérent avec son comportement. Une voiture ? Impossible à montrer. Le train ? Elle ne savait pas où se trouvait la gare et encore moins les horaires. Ça ne correspondait à rien. Comme d'habitude, quand elle entra à la librairie, Fabiche s'avança vers elle avec un plaisir non dissimulé. Elle semblait si contente de la voir, et comme d'habitude, elle ne lui demanda pas comment elle était venue. Tout semblait évident, simple, sans complications.
Armelle réalisa alors que Fabiche parlait peu. Elle ne parlait presque jamais d'elle, de ses soucis, de son travail. Le seul lien qui les unissait était le site internet pour lequel elles donnaient leur voix, leur temps et leur passion. Et aussi maintenant, la folie de Pépin. Armelle raconta son entretien ardu avec Lorelai et fit part de ses craintes.
Fabiche écoutait attentivement, bienveillante, s'efforçant de rassurer son amie. « On va sûrement trouver une solution. Et puis ça ne peut pas marcher. Comment pourrait-on envoyer quelqu'un dans le passé ? C'est des élucubrations, c'est tout. De toute façon, c'est pour quand ? Et justement, ils ne veulent même pas nous dire ça. » Fabiche eut un silence avec le regard fixe. Une flamme parut briller dans ses pupilles. Ses traits se détendirent, son visage s'illumina d'un sourire en direction d'Armelle. Et se levant, en claquant des doigts, elle chercha son téléphone, puis appela. Allô, Nico ? C'est Fabiche. Comment va ? Oui, moi aussi, je suis tellement contente de t'entendre. La conversation dura quelques minutes, et Armelle sourit en la voyant faire du charme. Elle avait vraiment une voix ensorcelante. C'est alors qu'elle susurra la question. Dis-moi, je dois rejoindre Lorelai à l'aéroport de Roissy, mais je ne sais plus quand c'est. Je suis vraiment bête. J'ai oublié de noter quand elle m'a dit. Oui ? Oh, t'es vraiment trop mignon. À quelle heure ? Ah bien, je marque. Super, t'es vraiment trop chou. Heureusement que tu es là, sinon je ne saurais pas ce que j'aurais fait sans toi. Si, si, vivement qu'on se revoie, hein. Gros bisous. Et voilà le travail, fit-elle en se tournant vers Armelle. J'ai la date et les horaires de vol. Armelle la félicita. Maintenant, il n'y avait plus qu'à attendre, en espérant que rien de grave n'arriverait.
Moi, vouloir être un chat. Frotte contre tes bas, je me ferai angora pour me blottir dans tes bras.
Les deux femmes se mirent alors à papoter. Le matou qui les lorgnait, couché sur la grande table en chêne, sentait qu'on parlait de lui. La paupière à peine relevée, il laissait apercevoir la pupille noire et luisante. Le regard parut si pénétrant. Carmel sentit un frisson la parcourir. Elle tressaillit. Elle se souvint de quelle façon le chat lui avait fait découvrir le souterrain bizarre entre le dolmen et le monument aux morts, comme s'il savait qu'elle devait absolument rencontrer sa maîtresse. Elle ne put le regarder plus longtemps et lança à Fabiche.
« C'est fou ce qu'il m'intimide, ton chat. J'ai l'impression qu'il sait plus de choses que moi. »
« Oui, tu n'es pas la seule à me dire cela. Parfois, je ne comprends même pas comment il devine ce que je vais faire. Et tu sais, quand j'ai vu ton chien, je me suis demandé comment ça allait se passer. En général, ici, les chiens changent de trottoir. Or, non seulement Obélix n'a pas eu peur de lui, mais ils ont sympathisé. »
Peut-être que les animaux sont plus intelligents que les humains.
Oui, ou alors ils sont plus sincères.
À mes félines caresses, les canines d'un chien en laisse. Tu ne comptes pas sur moi. Pour dormir sur le sofa, je te montrerai de quoi est capable un gros chat. À ce jeu-là, je suis roi.
Quand Armel fut parti, Fabiche se tourna vers Cornelius et battit des paupières pour affronter le regard du félin. La queue de celui-ci ondula comme un serpent. Wow. Fabiche pensa alors, « T'aurais pas fait des tiennes encore ?» Cornelius se leva, s'étira, vint se frotter énergiquement contre les jambes de Madame l'abeille, avant de filer doucement vers la cuisine. Wow. « C'est ça. Détourne la conversation, » lui jeta-t-elle. « Bon, tu as raison. » On va manger. Épisode 11, un étrange regard.
La vieille dame avait retiré les oreillettes et lorsque Lorelai s'approcha, elle lui sourit. Alors madame, cela vous a plu, sans qui Lorelai ?
C'est magnifiquement lu. J'adore ces nouvelles de Maupassant. Cela fait si longtemps que je les ai lues, je ne m'en souvenais plus.
Guy de Maupassant, le petit fût.
Guy de Maupassant, le rosier de Madame Husson.
Guy de Maupassant, le papa de Simon.
Guy de Maupassant, conte fantastique, conte de Noël.
Guy de Maupassant, boule de suif.
Et puis, toutes ces personnes différentes qui lisent chacune quelques-unes de ces histoires... C'est tellement agréable d'entendre une voix différente avec sa sensibilité propre. C'est merveilleux tous ces gens qui lisent ainsi. Cela éveille l'esprit et le cœur. C'est vraiment stimulant. J'ai toujours eu peur de perdre la tête un jour. Vous avez bien un moment, n'est-ce pas ? Asseyez-vous près de moi. Lorelai hésita. Mais la voix de la passagère avait ce petit ton sûr et précis, plein de cette autorité protectrice qui rassure l'employé face à sa hiérarchie et au règlement. La vieille dame avait ce petit sourire plein de bonté qui démentait l'ordre et le transformait en prière. Elle était petite, mais son port de tête était digne, et son visage restait droit et semblait regarder devant elle. Elle semblait ne pas regarder Lorelai, ou plutôt, c'était comme si elle la fixait du coin de l'œil, comme on dit, ce qui la rendait encore plus altière. Lorelai sourit, s'assit. La vieille dame lui tendit le baladeur en s'excusant. « Je ne sais pas l'arrêter, et les touches sont si petites, j'ai peur de faire des bêtises. »« Bien sûr, il n'y a pas de souci, je vais le faire, » souffla Lorelai. « Ne soyez pas étonnée de ma manière de vous regarder. Vous savez, je ne peux plus lire. J'ai une dégénérescence maculaire qui m'empêche non seulement de lire, mais aussi de voir en face. Je ne vois plus qu'en regardant de côté. Vous comprenez ?»« Oui, je comprends. Vous n'avez jamais travaillé alors, sans qu'il le relaye ?»« Si, évidemment. Ma maladie date de seulement une dizaine d'années. » J'étais vendeuse dans une joaillerie en face du Louvre. Ah, oh, vous vendiez des bijoux ? Non, je n'étais pas bijoutière. Un sourire éclairait son visage. Non, j'étais dans la joaillerie.
Ce sont des pierres précieuses. Ah bien, c'est intéressant. J'ignorais la subtilité. Mais les pierres sont des bijoux. Pas exactement. Vous pouvez acheter des pierres précieuses sans en faire un bijou, ou alors la faire monter sur un bijou que vous choisirez, ou même démonter une pièce pour la faire monter sur un autre bijou. Ah, vous m'apprenez quelque chose. Il y a toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un. Mon métier était d'apprendre aux clients à choisir en connaissant la qualité des pierres. C'est très important, vous savez, car souvent, le client fait un cadeau et si le cadeau ne convient pas, s'il a déçu, si le client croit qu'il s'est fait voler, il ne revient pas, ou seulement très en colère. Et il faut le rembourser, avec le risque que cela se sache dans le monde entier. C'est une question de réputation. C'est cela, la qualité du service. D'ailleurs, vous devez le savoir puisque vous travaillez dans cet avion. Appelez-moi Georgette. Voulez-vous m'accorder ce privilège ?
C'est la femme aux bijoux, celle qui rend fou, c'est une enjôleuse. Tous ceux qui l'ont aimée ont souffert, ont pleuré. Elle n'aime que l'argent, se rit des serments, en garde à la gueuse. Le cœur n'est qu'un joujou pour la femme aux
Lorelai sourit. C'était vrai, bien sûr. Dans le monde du luxe, l'exigence de la qualité était impitoyable. Les réputations étaient très longues à s'édifier et pouvaient s'écrouler brutalement. Les sommes d'argent mises en jeu dans les services et articles de haute valeur étaient considérables. Le client en voulait donc pour son argent. Et ses réflexions la ramenèrent soudainement à son propre travail.
Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie, j'ai rêvé de voir le bas d'en haut. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir des talons hauts. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir les fesses en l'air.
Elle était devenue gouvernante du salon Émeraude qui contenait une vingtaine de passagers. 10 salons s'étendaient sur le pont supérieur de l'Airbus A380 Atlantic's Flying Palace. Chacun de ces salons était géré par une gouvernante que secondait une hôtesse et un steward. À l'arrière se trouvaient 2 suites ou appartements privés réservés aux plus fortunés ou aux séminaires d'entreprises haut de gamme. Lorelai proposa alors à Georgette de descendre au pont inférieur pour aller à la salle de spectacle. Elle se heurta à un refus catégorique. Alors, elle proposa la retransmission en direct du spectacle qui allait commencer. Les passagers qui n'étaient pas descendus approuvèrent comme Georgette cette nouvelle possibilité de voir le spectacle depuis leur fauteuil. Lorelai précisa que ce serait sûrement moins bien que d'être présent dans la salle. Le steward avait apporté, puis déplié et plaqué sur une cloison, une visio-toile du même genre que celle que Nico avait utilisée à la rue Chaumeau. Il la relia à une prise située dans la paroi. L'image apparut. On voyait un rideau rouge et or qui attendait d'être levé. De temps à autre, un autre plan circulaire montrait la salle que la caméra balayait doucement. Alors, se dévoilaient de nombreuses tables avec des consommations diverses, surtout des cocktails, alcoolisés ou non. Les tables étaient entourées de spectateurs discutant, avec animation pour les plus jeunes ou avec une retenue feutrée pour les plus âgés, avec le petit doigt montrant les étoiles de la tenture bleu nuit du plafond. Lorelai restait soucieuse au fond d'elle-même. Elle n'arrivait pas à voir Ray Bradbury. Normalement, il aurait dû se trouver dans le salon turquoise. Sa collègue lui avait pourtant bien affirmé qu'il était là. Il était descendu, comme beaucoup, par curiosité, visiter le pont inférieur,
qui, outre la salle de spectacle, possédait un room relax avec un spa, comprenant deux jacuzzis, un salon d'esthétique et de massage, un room-bar-restaurant, suivi d'un player room, contenant des consoles vidéo pleines de simulateurs et de jeux de réseau, que suivaient des tables de jeux d'échecs, de backgammon, de bridge, de poker, et enfin le casino, à la suite duquel un grand vestibule avec deux escaliers qui assurait la communication avec le pont supérieur. Ces escaliers reposaient sur le même principe architectural mis au point par Léonard de Vinci pour le château de Chambord, empêchant de voir ceux qui empruntaient l'autre escalier. Un nouveau bar servait d'accueil à la salle de spectacle appelée le cabaret. À ce niveau, un ascenseur offrait une meilleure accessibilité pour les passagers que leur capacité physique ou leur manque de courage limitait. Sans doute, l'écrivain était-il parti découvrir ses services de rêve ou au spectacle, à moins qu'il se soit adonné au plaisir d'un massage. Son âge avancé lui offrait sûrement ces douleurs rhumatismales dont se plaignent justement les vieux. Ou bien, cet intellectuel était-il parti observer les joutes de l'esprit auxquelles on pouvait assister dans les salles de jeu ?
Vous prenez la télécommande, si vous ne savez pas, vous allez vous abstenir. Qu'est-ce qui gravite autour de la Terre ? A, la Lune, B, le Soleil, C, Mars, D, Vénus. C'est maintenant qu'il faut voter, merci. 56% pensent que le Soleil gravite autour de la Terre.
En effet, des personnalités éminentes avaient été invitées à montrer leur talent de professionnel dans ces jeux que l'on considérait habituellement comme des divertissements. Ainsi, pouvait-on admirer le masque impassible des joueurs de poker dont le sens du bluff devenait incompréhensible pour les néophytes. C'était l'occasion de voir à l'œuvre le chanteur français Patrick Bruel, qui fut champion du monde et reste l'un des meilleurs dans ce domaine. Au moins, à ce jeu, il ne risquait plus de se casser la voix comme dans la chanson.
Épisode 12. L'Alexandrite.
Excusez-moi, madame, vous n'auriez pas croisé un lapin ?
Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui, ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui avait un fusil.
Lorelai, qui était en train de penser à Fabiche et au magnifique tapis à carreaux blancs et noirs qui ornait la salle de l'arrière-boutique, avait sursauté et se retourna le cœur battant pour dévisager le perturbateur. Elle croyait avoir mal entendu. « Pardon ? Oh, excusez-moi, je ne voulais pas vous faire peur, je cherchais juste mon lapin. Il s'appelle Perlimpinpin, enfin, on l'appelle Pimpin. Vous ne l'auriez pas vu par hasard ?»
Je suis désolée, monsieur, je ne crois pas qu'il y ait un lapin à bord. Les animaux ne sont pas autorisés en cabine.
Oh, dommage. Je me demande bien où il est.
Lorelai considérait le jeune homme d'un air bizarre.
Curieuse façon de draguer le coup du lapin.
Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure.
On ne lui avait encore jamais fait ce gag-là. Il a l'air sincère, un peu zinzin peut-être avec son pimpin, ou alors il joue super bien la comédie. On ne sait jamais. Les pensées se bousculaient dans la tête de Lorelai, qui n'arrivait plus à recomposer un personnage cohérent. Elle regardait ce garçon qui affichait un petit sourire triste. Elle lui sourit, réconfortante, et dit « Si je vois un lapin, je vous fais appeler, d'accord, monsieur ?»
Bedelgum, Mr. Bedelgum. Oh, yes, please.
Non, je suis français.
Ah, bien, Mr. Bedelgum,
fit Lorelai, incertaine, la voix de plus en plus voilée.
Oui, c'est cela. Il faut absolument que je le retrouve. C'est très important. Oh, c'est une question de vie ou de mort. Pim, 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 pim. Où es-tu?
Il s'éloigna, furetant derrière les fauteuils en daim, sous les tablettes d'acajou, derrière le bar, fouillant dans les plantes décoratives. Lorelai restait figée et consternée.
Si c'était pas malheureux, il avait l'air bien sympathique ce garçon, mais vraiment, il semblait sérieusement secoué.
Du coup, prudente, elle laissa tomber son projet de visite de la salle de spectacle pour rejoindre le salon Émeraude et retrouver son équipe d'hôtellerie et sa clientèle. D'ailleurs, le spectacle venait de commencer.
Richard Branson lui-même présenta le début du spectacle. Le milliardaire aventurier ne dédaignait pas de se mettre en scène, surtout pour présenter la célèbre diva Cecilia Bartoli.
La cantatrice du bel canto interpréta deux grands airs extraits de son récital. Georgette semblait beaucoup apprécier ce moment.
Ensuite, ce fut le fakir américain Jack Rubor qui exécuta quelques tours surprenants. Il tordit quelques barres de fer que des spectateurs ne parvenaient pourtant pas à déformer le moins du monde. Il repoussa de sa poitrine la pointe d'un sabre qu'on lui appliquait avec timidité au début, puis plus vigoureusement ensuite au niveau de son sternum. Il fit disparaître ses deux assistants dans des fumées sulfureuses, jaunâtres et verdâtres. On resta, on attendit, mais les deux assistants ne reparurent pas. Enfin, le fakir d'allure râblée et musculeuse, à la tête surmontée d'une chevelure rouge taillée en brosse et dont le front était ceinturé d'un large bandeau orné d'une pierre brillante, disparut à son tour en sautant dans un cercle couvert d'un papier qu'il traversa et s'évapora aussi. Le cercle tomba sur la scène. Jack Rubor réapparut par l'entrée de la salle sous les applaudissements. « Cela a l'air vraiment extraordinaire !» dit la vieille dame à qui Lorelai décrivait les numéros de Jack Rubor. « Oui, il est étonnant !» confirma l'hôtesse de l'air. « Vous savez, il porte un petit ruban avec une pierre brillant au milieu. Je ne sais pas si elle est vraie, mais elle est jolie. Parfois, on dirait qu'elle change de couleur. » Ça donne vraiment un effet bizarre.
Une pierre qui change de couleur?
Oui, il doit y avoir une lampe dedans. Une vraie pierre précieuse ne change jamais de couleur.
Lorelai était affirmative. Mais Georgette, après un silence, exprima son émotion d'une manière retenue, comme si elle ne voulait pas croire quelque chose qu'elle pensait.
Une lampe? Mais l'avez-vous vue briller ou étinceler? Où la lumière était-elle constante?
Lorelai réfléchit.
Oui, vous avez raison, elle étincelait.
Alors, c'est une vraie pierre, fit Georgette pensive.
Mais elle change de couleur, ça doit être de la verroterie pour le spectacle.
Non, non, quand le verre est coloré, il ne change plus de couleur, précisa Georgette. Donc, cette pierre est rose ou rouge, n'est-ce pas?
Oui, enfin quand il ne bouge pas et qu'il est face au public. Mais à certains moments, elle paraissait grise.
Alors, c'est une alexandrite. C'est la seule pierre qui change de couleur en fonction de l'éclairage. À la lumière du jour, elle sera bleue ou verte. Ce sont les plus belles et les plus rares qui sont vertes et rouges. Elles venaient de Russie et représentaient les couleurs de la Russie éternelle. C'est en hommage au tsar Alexandre II qu'on a donné son nom, l'alexandrite.
Bien, j'en apprends des choses aujourd'hui. Ça me fait envie, une pierre comme ça. J'adore tellement les changements de couleurs, fit Lorelai, rêveuse.
Sur la visio-toile, un très jeune prodige étalait sa virtuosité. Son violon chantait le vol du bourdon de Rimsky-Korsakov. Georgette écoutait respectueusement. Sourire taquin, elle s'amusait de l'émotion et de l'envie de son ami d'un jour.
À quoi pensons-nous, Lorelai?
Ça coûte cher, une alexandrite, dit l'hôtesse de l'air comme une enfant prise en faute.
Cela dépend de la qualité. Vous savez, le travail du lapidaire est très important. Souvent, il laisse la gemme. C'est comme ça que l'on appelle une pierre quand elle n'est pas encore montée sur un socle, que ce soit un bijou ou un présentoir. Il laisse la gemme donc près de lui. Il travaille d'autres pierres, puis de temps en temps, il contemple cette pierre. Il se laisse imprégner par la structure, sa transparence. Il l'apprécie, l'évalue et essaie d'imaginer ce qu'elle va devenir.
Il prévoit comment il va l'orienter, la tailler pour que la lumière entre dedans, prisonnière, et ressorte en un grand nombre de feux par les facettes.
Et alors, la pierre étincelle. C'est passionnant comme travail.
Oui, très passionnant. Mais c'est aussi très difficile. C'est un art, comme la sculpture.
Il faut laisser la plus grande quantité de minéral homogène possible pour avoir un joyau de grande taille et de très grande qualité. Quand le lapidaire taille la pierre, il enlève, vous comprenez? Il enlève. Il ne doit pas se tromper, car il ne pourra pas recoller.
Lorelai hochait la tête. Georgette reprit.
La partie du dessus, celle que vous voyez le mieux, s'appelle la table.
C'est rigolo comme nom.
Autour de la table, légèrement plus bas, on taille les facettes en cercle, on appelle cela la couronne.
Et c'est cela qui envoie les feux?
Oui. Et la partie inférieure s'appelle la culasse.
Tiens, comme l'arrière du canon d'un fusil.
Exactement, c'est cette partie qui va piéger la lumière. Quand la culasse est coupée, on dit qu'elle est tronquée. Plus la partie tronquée est petite, plus la culasse est longue, et donc plus la pierre brillera.
C'est pour cela qu'il n'y a pas deux pierres identiques. Vous savez, je suis capable de reconnaître la plupart des pierres que j'ai vendues.
Elles ont chacune leur particularité, j'ose même dire leur personnalité.
Quant à l'alexandrite, son prix sera bien sûr fonction de tout cela. J'ignore comment ce monsieur Rubor a eu la sienne, mais elle vient probablement du Brésil. Il n'y a plus guère que dans cette région du monde qu'on la trouve. Celles de Russie, qui sont de meilleure qualité, sont devenues très rares dans les salles de vente, et leur prix, oui, leur prix dépasse souvent celui d'un bon diamant.
Un poids égal, bien sûr. Vous en avez déjà vu? Questionna Lorelai.
Oui, mais il y a bien longtemps. Et elle n'était pas en vente. C'est presque invendable. Lorelai regarda vers l'écran qui venait d'annoncer un prestidigitateur. Puis, elle resta bouche bée devant le visage qui apparut.
Si vous avez envie qu'il y ait une suite, réclamez-la à l'auteur.